Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Qui n'a jamais ressenti la fatigue ? Personne. Et pour cause, la fatigue est avant tout un phénomène physiologique protecteur. Longtemps négligée par le corps médical et par la recherche, elle peut être également révélatrice de réelles pathologies.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Fatigue, le bon, la brute et le truand. Dans cette scène culte, Blondin ne défie pas seulement Touko. Des poches sous les yeux, il fait aussi face à un adversaire qui peut lui faire perdre l'esprit ou le laisser rôtir sous le soleil du Midwest si elle s'empare de lui. Et il a raison de se défendre, la fatigue, mieux vaut ne pas la laisser creuser. Fatigue est qui plus est ce que l'on appelle un mot à tiroir, en français du moins. Mais grâce à la science, nous pouvons aujourd'hui en définir les nuances. Il est donc plus juste de parler des fatigues plutôt que de la fatigue. Quels mots peuvent se cacher derrière cette sensation? Comment la ou les mesurer? C'est le thème de cette nouvelle émission inspirée par une collaboration inédite avec les sciences sur le pouce de l'Université du Mans. La fatigue, un thème dont je suis en ce moment, il faut le dire, une excellente ambassadrice. Baptiste Morel-Prieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Motricité, Interaction, Performance et à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université du Mans. Vous êtes accompagné aujourd'hui par Martin Chartogne, doctorant dans ce même laboratoire, le MIP, pour les intimes. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux. Alors, vous travaillez sur la fatigue habilitée à l'exercice et sur ses corrélations potentielles avec la fatigue liée au cancer. Comment avez-vous fait le rapprochement? Qu'est-ce qu'elles ont de comparable exactement?
Alors, en fait, c'est venu un peu du hasard. Du hasard, parce que mes travaux, initialement, s'intéressent plutôt à la fatigue liée à l'exercice. On va faire un effort, on se fatigue, tout le monde connaît bien cette notion. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues qui travaillaient en des services d'oncologie autour du cancer, et où le terme de fatigue était quelque chose qui revenait souvent, en disant nos patients se sentent très fatigués. Donc nous, on s'est dit, attendez, la fatigue, on connaît bien ça, on peut vous en dire plus, on va creuser. Et donc voilà un peu comment ça s'est rapproché. Et donc on a commencé à analyser comment se fatiguer à l'exercice les patients atteints de cancer, comment ceci pouvait être corrélé à la sensation de fatigue qu'ils ressentent. Et dans le cadre d'expérimentation pilote, on a vu qu'il y avait des liens entre les deux, ce qui nous a amené à pousser un petit peu nos recherches, à chercher des financements pour pouvoir creuser. Et aujourd'hui, on a des projets qui se développent et qui sont plus ambitieux en termes de perspectives. L'objectif, c'est de comprendre la fatigue. Et une fois qu'on la comprend mieux, qu'on comprend ses mécanismes, ses causes, ça permet de cibler et de proposer les bonnes interventions pour répondre aux causes, aux bonnes causes, et donc avec pour finalité de diminuer la fatigue de ces personnes-là.
Vous distinguez, Baptiste Morel-Prieur, deux types de fatigue, en tout cas deux façons de l'appréhender, d'abord en tant que sensation ou bien en tant que perturbation du fonctionnement du corps.
C'est exact. L'idée, c'est que derrière le terme fatigue, il y a plein de choses très très différentes qui vont se cacher, et notamment il y a deux grandes conceptions différentes. Il y a l'aspect, la fatigue sensation, en ce moment-là, c'est ce que je me sens fatigué, c'est décrit par certains même comme une émotion. Et d'un autre côté, il y a la fatigue comme une perturbation du fonctionnement, comme vous venez de le dire. Si on reparle de l'exercice, si vous allez faire un marathon, probablement à la fin, vous allez courir un peu moins vite qu'au début. Et donc, vu que vous courez moins vite, votre fonction neuromusculaire, de la locomotion, va fonctionner moins bien. Et donc, on va appeler ça fatigue également.
Combien de types de fatigue est-ce que vous avez identifié?
Alors, il y a la fatigue émotionnelle, par exemple, hein, tout ce qui est lié à de l'anxiété, de la dépression, tout ce qui est les aspects plutôt psychologiques. La fatigue cognitive, où là, c'est plutôt lié à tout ce qui est attention, mémoire.
Diminution des capacités de temps de réaction.
Oui,
de...
voilà. Et ensuite, il y a la fatigue physique, à proprement dite.
La plus connue.
La plus connue, qui là se rapporte plutôt à l'aspect musculaire.
Quand vous avez dit la fatigue physique qui est la plus connue, effectivement, l'entrée est arrivée plutôt par ici en termes d'histoire. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé un peu par hasard sur un article du Larousse Médical, édition 1921, avec la définition de fatigue qui est très très longue comparée aux autres termes, et qui n'aborde que les aspects de la fatigue physique. Et ça termine simplement par deux lignes, où en fait on évoque le fait que peut-être que ça pourrait être aussi lié à des aspects psychologiques, parce qu'il y a tout, il y a la Première Guerre mondiale qui est passée par là, et on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas de traumatisme physique, enfin certains, pas tous, mais qui n'ont pas de traumatisme physique, et pourtant qui vont subir cette sensation de fatigue très très approfondie. Et donc en fait, on commence à se dire peut-être qu'il y a des déterminants psychologiques derrière tout ça.
Effectivement, après une guerre mondiale, c'est plus qu'envisageable, mais on n'était pas suffisamment documenté à l'époque, j'imagine, pour l'appuyer. Plus que ça, grâce à quel type de test exactement on arrive à déterminer de quel type de fatigue il s'agit ?
Alors ça dépend déjà de la conception de la fatigue. Si on est sur la fatigue sensation, on demande à la personne. Donc là, on va fonctionner par des questionnaires. Est-ce que vous vous sentez fatigué d'un point de vue physique ? Oui, non. Alors ça, c'est la réponse binaire. Ou alors, on peut aller rentrer un petit peu dans le détail avec ce qu'on appelle des échelles. Donc vous allez coter entre 0 et 10 votre niveau de fatigue. 0, vous n'êtes pas fatigué du tout. Et 10, vous subissez la fatigue la plus extrême que vous puissiez ressentir dans votre vie. Ça, c'est la sensation. Après, on peut différencier les différents types de fatigue d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue physique. Et si on perçoit si la fatigue, c'est plutôt la fatigue diminution du fonctionnement, eh ben on va évaluer le fonctionnement en question. Donc si on est en train de parler de capacité neuromusculaire dans le cadre d'un exercice, on peut regarder la force que vous êtes capable de produire. Donc on a une des méthodes qui va consister à serrer le plus fort possible une poignée et de mesurer la force. Et donc au début, vous êtes capable de produire 40 kilos de force. Et puis, après un exercice, ou après quelque chose, ou parce que vous êtes malade, on va se rendre compte que vous êtes capable de produire plus que 20 kilos de force. Ben à ce moment-là, la diminution de force, on va dire, c'est de la fatigue neuromusculaire. Ça, c'est pour la fatigue physique, mais après, on l'a pour tous les différents types de fatigue. Donc, si on parle de fatigue cognitive, on peut évaluer des temps de réaction. Donc, votre temps de réaction va augmenter quand vous êtes fatigué, parce que vous avez passé votre journée sur l'ordinateur à faire des calculs, à réfléchir. Et puis, vous avez encore... Donc, il y a plein de possibilités, il y a autant de fonctions que d'évaluation. On peut parler aussi de fatigue comportementale, de modification de votre comportement lié à la fatigue. Mmh. Et dans ce cadre-là, par exemple, vous allez avoir une réduction du nombre de pas que vous faites dans la journée parce que vous êtes fatigué. Quand vous avez la grippe, vous n'allez pas faire autant de pas dans votre journée que quand vous êtes en pleine forme.
En tout cas, ces tests-là donc, qui permettent de mesurer, d'avoir des outils de mesure des différents types de fatigue, et ça change tout. En tout cas, c'est l'objet des expériences et des travaux que vous menez.
Effectivement, l'idée c'est d'aller à travers différentes mesures comprendre quels sont les points clés de la fatigue d'une personne pour la prendre en charge.
Alors effectivement, on s'est rendu compte donc il y a plusieurs types de fatigue comme on disait tout à l'heure. Les fatigues en général c'est émotionnel, physique et cognitive, et que certaines personnes pouvaient ressentir le même niveau de fatigue. Les deux personnes disaient qu'elles étaient extrêmement fatiguées, mais pour des raisons qui étaient pour l'une ou par exemple totalement liées à du sommeil. Des troubles du sommeil, et pour une autre personne totalement liée à des aspects purement physiques, des conditionnements physiques. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des profils de fatigue.
C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes symptômes, mais pour une fatigue qui a une origine différente.
C'est ça.
On va s'attarder dans un premier temps sur la bonne fatigue. Avant d'être une pathologie, c'est ce qu'on disait en introduction, la fatigue est un processus naturel. Être fatigué suite à un effort intense, ou le lendemain d'une soirée arrosée, ou encore lorsqu'on est enrhumé, c'est normal. À quoi est-ce qu'elle sert, cette fatigue normale ?
Elle sert à protéger votre corps, à éviter que vous alliez trop loin et que vous abîmiez votre corps. Donc c'est le cas de tout ce qu'on va appeler fatigue. Si on parle de fatigue liée plutôt au sommeil, je vais avoir très sommeil. Effectivement, si pendant trois nuits consécutives je fais la fête, je vais me sentir fatigué. Et en fait, tout simplement, ça va me pousser au repos, m'obliger à dormir, à me coucher un petit peu plus tôt et de récupérer de cette fatigue. Et si on est dans le cadre d'un exercice physique, c'est la même chose. Vous entraînez plusieurs jours de suite, vous allez vous sentir très fatigué. Et simplement, ça pousse votre corps à rester un petit peu au fond du canapé, à dormir un petit peu plus, à récupérer. Pour pouvoir, surtout pour éviter d'aller trop loin et puis avoir des adaptations au niveau de votre corps.
Si tant est qu'on l'écoute.
Oui, tout à fait.
C'est quand même une condition sine qua non. Est-ce qu'on peut être fatigué psychiquement après un effort physique ? Ou bien est-ce que la fatigue est intimement corrélée à son point de départ? Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Martin, tout à l'heure. Par exemple, après un marathon, on est épuisé physiquement, ou après un effort intellectuel intense, comme une émission d'une heure, on est fatigué psychiquement. Est-ce que ça va forcément de pair? Est-ce qu'il y a une logique à ce niveau-là?
Oui, les deux sont assemblés. Il y a forcément un aspect fatigue qui se répercute sur la motivation, en fait. C'est ce qu'on voit aussi au niveau musculaire. C'est qu'il y a une fatigue qui est liée au muscle en lui-même, qui est fatigué, donc qui est plus capable de produire le même niveau de force, par exemple, qu'avant la fatigue. Et il y a également un autre aspect qui est plutôt lié au cerveau. Là, c'est le cerveau qui en lui-même est fatigué, qui n'arrive plus à activer le muscle comme il faudrait.
Alors, si on reparle de fatigue physique dans le cadre d'activité sportive, on a souvent tendance à penser que c'est les muscles qui peuvent plus se contracter, ce qui est vrai dans plein de situations, mais ce n'est pas forcément le cas. Et on peut aussi avoir des fatigues qu'on va appeler d'origine centrale, c'est-à-dire que les muscles, dans ces cas-là, ne sont absolument pas fatigués.
Centrale, c'est-à-dire du cerveau.
C'est ça. Donc en fait, le muscle, lui, n'a pas de souci. D'ailleurs, pour le tester, en fait, on vient le stimuler électriquement et on voit qu'il répond très bien. Donc il n'y a pas de problème, le muscle est capable de se contracter. En revanche, si on demande à la personne de contracter le plus fort possible, on se rend compte qu'elle n'arrive pas à contracter très fort. Et donc si le muscle n'a pas de problème et que la personne n'arrive pas à contracter, on va faire l'hypothèse que ça provient donc d'aspects centraux du cerveau qui n'active plus ses muscles. Et dans le cadre de certaines activités, je peux en citer deux qui n'ont absolument rien à voir. Si on prend le cas des épreuves d'ultra-endurance, par exemple l'ultra-trail du Mont-Blanc qui est très connu en France, une course de 160 km consécutifs, les personnes à la fin de cette course, et les chercheurs qui ont fait des études, et en fait ont montré que la fatigue musculaire, vraiment liée aux muscles, était relativement faible, moins de 10% de la fatigue, enfin la capacité de production de force, par exemple des extenseurs de genoux, du quadriceps, de la cuisse, en fait, n'était plus capable de produire que 90%. Alors, en fait, 90% des capacités de force, après 30 ou 40 heures d'épreuve, ben, en fait, c'est...
Ça paraît minime.
C'est plus que minime. En revanche, effectivement, il y avait des perturbations centrales au niveau du cerveau, donc il y a des modifications biochimiques, avec notamment des augmentations de concentration de sérotonine, qui est une molécule qui est impliquée dans la dépression également. Donc, on a des modifications qui vont faire que les personnes ne sont plus capables d'activer leurs muscles. Alors ça, c'est un exemple dans l'ultra-endurance, mais on le retrouve aussi dans des tâches qui sont, dans des exercices qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus courts. La mêlée de rugby, moi, c'est des études que j'ai eu l'occasion de mener, où on se rend compte que un pilier dans une mêlée de rugby, il pousse contre un pack qui fait à peu près une tonne, au plus haut niveau. Et en fait, ces muscles sont toujours capables de se contracter, la fatigue périphérique, la fatigue musculaire est limitée. En revanche, c'est le cerveau qui va arrêter d'activer les muscles. Alors on ne comprend pas bien les mécanismes, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est encore une fois de la protection, et les niveaux de force sont tels, les contraintes sont telles au niveau du corps, que le cerveau vient en quelque sorte demander à la personne d'arrêter et de pousser aussi fort, que ça pourrait être dommageable pour les muscles, pour les articulations.
Si ça atteint autant notre système nerveux central, c'est aussi probablement, mais vous allez me dire si je me trompe, que l'effort fourni, en l'occurrence sur ces deux exemples-là, il n'a rien de naturel.
Si, parce que alors il n'y a rien de naturel. Effectivement, si demain tout le monde ne court pas une course de 160 km. En revanche, si on se repositionne dans le cadre de l'évolution, on est une espèce nomade qui se déplace énormément et qui a des capacités d'endurance qui sont absolument, absolument phénoménales. Donc en fait, notre corps est fait pour se déplacer aussi longtemps. On peut être amené également à produire des niveaux de force très importants parce qu'il va falloir déplacer un rocher ou je ne sais quoi. Mais c'est des choses qu'on est capable de faire. Simplement, pour éviter que notre corps s'use ou s'use trop, on va avoir ces processus qui vont venir en fait nous ralentir ou nous empêcher d'aller trop loin.
Ces impacts potentiels sur notre cerveau, ils sont primordiaux à étudier, puisqu'en fait ils nous indiquent aussi que la fatigue peut avoir des conséquences sur notre attention. Ça pourrait être comparable à une petite dose d'alcool ou de stupéfiants, hein, au niveau de fatigue.
Alors oui, ça c'est des études qui sont menées par la sécurité routière, qui montrent que la première cause de mortalité sur l'autoroute, c'est la fatigue. Donc la perte d'attention qui va créer des accidents. Donc là, on est encore sur un autre type de fatigue, c'est plutôt de la fatigue, on va dire, attentionnelle. Mais donc effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences importantes, puisque les chiffres, ça doit être, quand on fait 17 heures de veille active, je crois que c'est ça, 17 heures de veille active, mais ça se fait assez rapidement. Il suffit de se lever à 6 heures du matin parce que vous avez une journée qui commence un peu tôt. Le soir, vous allez voir des copains, vous rentrez chez vous, c'est 23 heures, vous n'avez même pas pris l'apéro. Et pourtant, statistiquement, on se rend compte que l'état de fatigue dans lequel vous êtes vaut la dose interdite de 0,5 g par litre de sang, en termes de risque d'accidentologie.
Donc il faudrait inventer un outil de mesure du niveau de fatigue, en fait.
C'est ça, et malheureusement, ça n'est pas possible.
Retour au Labo des Savoirs en compagnie de Baptiste Morel-Prieur et Martin Chartogne pour parler de la fatigue, car oui, c'est un sujet de recherche depuis peu, mais c'en est un. Est-ce que la sévérité de la fatigue suffit pour savoir si elle est normale ou pathologique, Baptiste Morel ?
Absolument pas. Si vous faites une course de 160 km, bon, a priori, le lendemain, vous allez vous sentir fatigué, très fatigué, et c'est absolument normal. De la même manière, si vous... On parlait tout à l'heure de faire la fête parce que vous êtes en vacances, vous voyez les copains, vous ne dormez pas beaucoup. Vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué parce que vous ne dormez pas beaucoup. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc on peut se sentir extrêmement fatigué et que ça reste une fatigue, comme on l'évoquait, le bon côté de la fatigue, celui qui est protecteur et qui vient vous rappeler à l'ordre en vous disant bah, « là maintenant, il faudrait peut-être se reposer un petit peu ».
Alors le problème, c'est qu'il n'existe aucun biomarqueur de la fatigue.
Le problème, c'est la fatigue. Comme vous avez introduit l'émission, la fatigue, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on peut avoir un marqueur de une chose qu'on va appeler fatigue. Maintenant, de la fatigue en général, non, ça n'a pas beaucoup de sens.
Étant donné que ses origines sont multiples, biologiques, émotionnelles, physiques, comment différencier concrètement la fatigue normale de la fatigue pathologique ?
Le point qui est absolument central, c'est que la fatigue pathologique n'est pas, on va dire, enlevée par une période de repos. Toutes les autres fatigues dont on parlait, si vous avez fait la fête, si vous avez fait un marathon, pour des raisons X ou Y, vous êtes très fatigué, même extrêmement fatigué. Si vous prenez du repos, vous arrêtez un petit peu, vous réduisez votre charge d'entraînement, ou alors vous dormez plus, à ce moment-là, la fatigue va disparaître, vous allez récupérer. Lorsqu'on parle d'une fatigue qui est pathologique, qui devient anormale, en fait, on ne récupère plus. Et on a beau être en arrêt pendant plusieurs mois, plusieurs années.
On ne parle même pas de semaine.
On est sur des échelles, l'échelle d'une vie. Les personnes qui, toute une vie, vont se sentir fatiguées. Et à ce moment-là, on aura beau se reposer, il n'y aura pas de réduction de ce niveau de fatigue. Donc ça, c'est un point qui est vraiment clé.
Sur ces analyses-là, est-ce qu'il existe des disparités qui sont liées au genre biologique entre femmes et hommes ?
Alors, il y a des études qui visent à essayer de voir effectivement s'il y a des différences entre hommes et femmes sur la douleur, sur la fatigue neuromusculaire. Il y a des
fatigue physique, comme tu parlais des ultra-trail.
Oui, effectivement. Il y a des collègues qui travaillent actuellement là-dessus, justement, qui montrent que les femmes, en fait, sont plus endurantes, vont mieux résister à la fatigue.
On le savait.
Évidemment. Mais bon, c'est régulièrement la recherche, en fait, montre des choses qu'on sait depuis longtemps. Hein.
Ouais.
Mais effectivement, on peut avoir des différences.
Si la fatigue ne disparaît pas malgré des temps de repos, là, il est peut-être temps d'aller consulter.
Effectivement. Alors, il y a deux, trois autres indications. Il y a lorsque vous faites un effort et qu'il va paraître plus difficile que d'habitude. Pour donner une image, si vous allez faire un jogging alors que vous avez la grippe, votre jogging va vous paraître beaucoup plus difficile qu'à l'accoutumée. Donc ça, c'est un autre signe qui peut rendre compte de fatigue pathologique. Une autre chose, c'est que généralement, la fatigue pathologique va être associée à un autre élément, à une maladie. Par exemple, si vous souffrez d'une pathologie chronique comme le cancer, comme la sclérose en plaques, bon, il y a tout un tas de pathologies qui risquent de déclencher des sensations de fatigue. À ce moment-là, c'est encore un autre symptôme. Et un autre élément, c'est d'avoir une fatigue qui se déclenche sans aucune raison apparente, hormis potentiellement cette pathologie. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'excès, vous dormez bien, vous n'avez pas une activité sportive démesurée, tout va bien, et pourtant vous vous sentez fatigué. Voilà, c'est un petit peu des points clés qui permettent d'identifier le fait que la fatigue qu'on est en train de ressentir est peut-être pas tout à fait normale.
Mais ça pourrait pas être de la dépression plutôt que de la fatigue ?
Alors, la dépression et la fatigue sont deux choses qui sont très liées. Dans énormément d'études, on se rend compte que les personnes qui sont dépressives vont avoir tendance à être fatiguées, ou alors les personnes qui sont fatiguées vont avoir tendance à être dépressives, à tel point que c'est pas toujours facile de pouvoir les dissocier. Je suis en train de penser, dans certaines études, ils parlent d'un groupement de symptômes dans lequel il y a la fatigue, la dépression, la douleur. Et en fait, on les dissocie pas trop parce que elles ont des causes et des mécanismes communes, elles interagissent les unes avec les autres. Si vous êtes fatigué, donc vous allez rentrer plus en dépression, donc vous êtes plus fatigué, donc vous avez mal. Et au final, c'est assez difficile de réussir à distinguer l'ensemble de tout ça.
Et de savoir qui est arrivé en premier, finalement.
Oui, clairement. Qui est de la poule ou de l'œuf. Oui.
C'est cette fameuse question scientifique redondante.
On a traduit burn-out par épuisement professionnel, mais cette traduction manque l'idée d'une brûlure intérieure, c'est-à-dire que ceux qui souffrent de burn-out apparemment continuent de faire ce qu'ils doivent faire, et pourtant quelque chose est totalement brûlé à l'intérieur. Le discrédit à l'endroit du sommeil, le mépris de celui qui paresse, qui roupille, n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Vous vous souvenez peut-être qu'au champ neuf de l'Odyssée, Ulysse tense ses compagnons l'autophage. Vous savez, ils ont mangé le lotus et donc ils dorment tout le temps. Il les tente de se remettre au travail, il est très fâché contre eux, il les remet sur le bateau pour qu'ils se remettent au travail. Donc c'est pas nouveau, cette espèce d'inquiétude à l'endroit du sommeil. Mais je crois en effet que notre civilisation, eh bien, idéalise un peu la lumière, alors qu'à mon avis, le vrai séjour de l'homme, c'est le clair-obscur. Et idéalise un peu le travail, alors que comme le disait François Mitterrand, il serait triste que la vie devint l'annexe du travail. Et c'est peut-être parce que la vie tend aujourd'hui à devenir l'annexe du travail que nous avons perdu un peu contact avec cette joie de s'endormir, alors qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à s'endormir quand on connaît la bonne fatigue, celle à laquelle je consacre ma strophe, là. S'endormir, c'est reconstituer la nappe phréatique dont le tarissement rendrait impossible la vie éveillée. S'endormir, c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli, c'est renouer avec la part la plus secrète de nous-mêmes. Alors, il n'est pas sûr, comme vous dites, qu'on y trouve les dieux, mais on y trouve quelque chose de plus intérieur que ce qu'on a de plus intérieur. S'endormir, c'est se reposer du fardeau d'avoir à être soi. C'est peut-être même se reposer du fardeau d'être soi.
Voilà, intervention du philosophe Éric Fiat sur France Culture dans la Grande Table des Idées en mai 2018, à l'occasion de la sortie de son ouvrage intitulé « Ode à la fatigue », à la bonne fatigue, on l'aura compris. Il évoque en début d'intervention le tristement célèbre burn-out, dont on parle beaucoup et qui a probablement contribué à faire de la fatigue un sujet de recherche. Dans quelle catégorie est-ce que vous le rangez ? Dans quelle catégorie de fatigue ?
Le burn-out ?
Oui.
On est en fait dans le toujours cette fatigue qui va être pathologique en l'occurrence. Et en fait, le burn-out est souvent associé à la vie professionnelle. La fatigue dont on parlait tout à l'heure est plutôt associée, on va dire, à un aspect de la santé. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est celui du surentraînement chez des sportifs de haut niveau. Et à chaque fois, on est dans des symptômes d'épuisement prolongés qui ne sont pas récupérés, dont on ne récupère pas facilement, qui vont avoir des conséquences sur la vie des personnes qui sont très importantes. Donc en fait, je pense qu'elle se distingue en fonction des champs dans lesquels on l'analyse, soit la santé, soit le travail, soit le sport. Mais au final, probablement que les éléments, les mécanismes qui sous-tendent cette fatigue chronique sont liés ou très proches dans l'ensemble de ces situations.
C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, le processus du burn-out, c'est exactement le même qu'un processus lié au surentraînement sportif.
En tout cas, les mécanismes qui sont impliqués sont similaires. C'est-à-dire qu'on sait que dans le burn-out, on va avoir des problèmes de stress, d'anxiété qui sont liés au travail, on va avoir des perturbations du sommeil, et en fait, c'est des choses qu'on va retrouver dans le cadre du surentraînement. Alors dans le surentraînement, il y a aussi une dimension physique, avec un stress physique qui est très important, mais dans lequel on a des perturbations du sommeil, dans lequel on ne récupère pas. Et donc, on est sur des choses qui se croisent et qu'il va être difficile de distinguer précisément.
Au laboratoire, vous travaillez également avec des représentants et des représentantes des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que la dimension psychologique, quand on traite de la fatigue, elle est prépondérante.
En tout cas, elle a à en prendre en compte, comme tous les autres aspects qu'on évoque depuis le début, pour refaire un petit peu la genèse de ces projets. Quand je parlais tout à l'heure de la fatigue atteinte des personnes, la fatigue qui atteint les personnes qui ont atteint un cancer, on est allé travailler avec ces patients-là, en disant, nous, la fatigue, on sait ce que c'est, on l'étudie chez les sportifs, on va vous montrer. Donc, effectivement, on a vu qu'il y avait des liens, mais on s'est surtout rendu compte qu'il y avait une multitude de paramètres qu'on n'était pas capable de prendre en compte et qui faisaient qu'on n'était pas capable de bien comprendre ce qui était en train de se passer. Et donc, on a continué de creuser et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait des dimensions psychologiques, qu'il y avait des dimensions sociologiques, qu'il y avait des dimensions biologiques. Et en fait, on s'est dit, on ne peut pas, en arrivant avec une seule approche, venir dire, c'est bon, ça c'est la fatigue, on va vous l'évaluer, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, voilà ce qu'on va faire. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à la prendre en charge et qu'on n'arrive pas à la faire diminuer de manière significative, systématiquement, chez les populations. Donc, c'est suite à ce constat-là qu'on a créé des projets qui sont interdisciplinaires, et un projet notamment qu'on lance actuellement, qui est financé par la région Pays de la Loire, cofinancé par l'Université du Mans et par la clinique Victor Hugo qui est au Mans, et qui vise en fait à construire une approche biopsychosociale de la fatigue liée au cancer. Alors évidemment, on n'a pas toutes les compétences, nous, au sein du laboratoire. On est plutôt spécialisé sur la fonction neuromusculaire, sur la fonction du corps, dans sa locomotion, dans le mouvement du corps. Et on est allé chercher des compétences dans un laboratoire de psychologie de la santé. On a des collègues d'un laboratoire de sociologie pour faire une analyse sociologique de comment les sociétés de la personne vont évoluer en fonction de la maladie. Et on a également des collègues qui sont dans un laboratoire spécialisé dans des biomarqueurs de l'inflammation. On parlait de biomarqueurs tout à l'heure, donc effectivement, il y a ce point-là qui va être un point intéressant. Donc voilà, on vient et puis l'équipe clinique de médecins qui vient apporter toute son expertise médicale et de la santé. Et c'est en croisant l'ensemble de ces approches qu'on veut essayer de construire un modèle qui est très intégratif, qui va permettre de comprendre individuellement telle personne, pour quelles raisons, comment interagissent les dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Et le pari qu'on fait, c'est qu'en mesurant et en comprenant l'ensemble de ces dimensions biopsychosociales, on arrivera à mieux comprendre les mécanismes de cette fatigue et donc de pouvoir les prendre en charge.
On a vraiment l'impression que c'est du cas par cas quand on traite de la fatigue. On ne peut pas faire de généralité. Ça doit d'ailleurs être une des difficultés dans le cadre de vos travaux.
C'est clairement une problématique centrale dans les travaux qu'on mène. Si on regarde dans la littérature scientifique, on a plein de tentatives de trouver des interventions, qu'elles soient pharmacologiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses. Donc ça veut dire de non médicamenteuses, de l'activité physique, des thérapies corps-esprit, du soutien psychologique, ce genre de choses. En fait, toutes les études qui visent à analyser l'effet de l'activité physique adaptée, l'effet de la psychologie, l'effet d'une molécule, vont toutes avoir des résultats qui vont être similaires, à savoir des effets qui sont faibles à modérés. Donc ça veut dire qu'avec cette intervention, en moyenne sur notre population, on a réussi à diminuer un tout petit peu, un peu ou moyennement la fatigue. Mais systématiquement avec une variabilité individuelle qui est monstrueuse. Ça veut dire, pour certaines personnes, ça a extrêmement bien marché, et pour d'autres, ça n'a pas marché du tout. À la lumière de cet élément, l'hypothèse qu'on fait derrière, c'est de dire, en fait, pour certaines personnes, on était dans le mécanisme en question qui déclenche la fatigue, et donc, effectivement, ça a eu un effet qui était très important. Et pour d'autres personnes, c'était pas la bonne intervention. Si je prends un exemple, dans le cadre du cancer, la chimiothérapie va induire chez certaines personnes une fonte musculaire. Vous pouvez perdre plusieurs dizaines de pourcents de votre masse musculaire. Si cette personne-là, je lui propose du soutien psychologique, peut-être que ça sera très intéressant par ailleurs, mais ce qui a déclenché sa fatigue initialement, c'était ce déconditionnement physique musculaire. Donc j'ai beau l'envoyer faire des séances et des séances et des séances de soutien psychologique, ça ne pourra pas aller jouer sur l'aspect musculaire. Ou à l'inverse, une personne qui n'a pas du tout de problème de sa fonction physique, qui va très bien physiquement, mais qui a d'énormes problèmes de gestion, de stress, d'anxiété face à sa maladie, je peux lui faire autant d'activités physiques que je veux. Au bout d'un moment, on a besoin de jouer sur des aspects plutôt psychologiques.
Martin, je vais me tourner vers vous. Alors, on parle de fatigue pathologique ou de fatigue chronique dans le cas de personnes atteintes par le cancer ?
Ben, en fait, c'est une fatigue pathologique qui est chronique. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Savoir comment on peut différencier une bonne fatigue d'une mauvaise fatigue, déjà d'une, c'est qu'elle persiste dans le temps, la mauvaise fatigue, et qu'on ne récupère pas avec le repos.
Donc, on peut dire chronique à partir du moment où elle ne disparaît pas, où elle s'installe
dans
la durée.
Elle s'installe et on a beau essayer de se reposer, de récupérer, ben on reste fatigué.
Les échelles qui sont données, c'est... Quand on a une fatigue qui va persister pendant plus de 3 mois, on va commencer à s'inquiéter. Quand elle persiste pendant plus de 6 mois, à ce moment-là, on rentre clairement dans de la fatigue qui est dite chronique.
On se tourne vers qui quand on a dépassé les 3 mois ?
C'est l'énorme problème, c'est que ce symptôme de fatigue est très peu pris en compte par le monde médical. Je fais vraiment une généralité. Parce que le problème de la fatigue, c'est un symptôme qui va se retrouver dans un nombre de situations, dans un nombre de pathologies qui est absolument gigantesque. Dès que vous êtes malade, dès que vous n'allez pas être bien, que ce soit une grippe, quelque chose de beaucoup plus grave ou de très anodin, vous allez vous sentir fatigué. Et un médecin, quand vous allez le voir, si vous lui dites « je suis fatigué », quelque part, il s'en fout un petit peu. Lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à poser un diagnostic sur ce que vous avez pour pouvoir vous prendre en charge. Étant donné que systématiquement, quand vous allez voir, vous êtes fatigué, pour lui, ce n'est pas un paramètre qui est discriminant. Donc ça va assez peu l'intéresser. Alors, les choses évoluent. Comme ça a été le cas pour la douleur il y a 10-15 ans, qui est arrivée sur le devant de la scène et qu'on commence à prendre en charge de manière beaucoup plus approfondie, on commence à parler de fatigue, on commence à un symptôme qu'on va commencer à prendre en charge. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément de réponse, que lorsque vous allez vous tourner vers le monde médical, souvent les médecins ou le monde paramédical n'aura pas forcément de réponse claire à vous donner. Donc c'est aussi
parce que ce n'est pas un symptôme objectif, c'est ça ?
Historiquement, la raison, elle est, je pense, fondamentalement là. Je parle des fois d'une étude qui est une vieille étude qui est des années 70, qui s'intéressait aux différents symptômes qui étaient rencontrés par des patients. Il y avait une liste de 45 symptômes, avoir de la toux, être essoufflé quand on fait un effort, ce genre de choses. Et en fait, on demandait aux médecins de classer les symptômes par ordre qui était prioritaire pour eux. Et la fatigue arrivait de mémoire 23e sur ces 45 symptômes, en termes d'importance. Et quand on posait la même question au patient, on reprenait le médecin et le patient de chaque côté, on lui disait, donc pour vous, les symptômes, classez-les, quels sont les plus importants ? La fatigue était classée numéro 3 chez les patients. Donc c'est quelque chose qui perturbe énormément la qualité de vie, qui atteint énormément la vie des personnes. Et pourtant, un médecin, ça l'intéressait moins. Donc historiquement, on ne s'est pas vraiment intéressé à ce symptôme-là. Et en revanche, alors depuis 10, 20 ans, c'est un symptôme qu'on va considérer plus, mais il y a encore énormément de travail à faire. Et la première chose qu'on peut faire pour que ce symptôme soit plus pris en compte, c'est bien comprendre que ça n'est pas une fatalité, qu'il est possible d'intervenir sur sa fatigue, même si ce n'est pas simple, on en parlera probablement tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument en parler. Il faut en parler au médecin, il faut en parler à son entourage, expliquer qu'on ressent cette fatigue, cet épuisement. Alors je préfère parler d'épuisement parce que la fatigue, en fait, on a vu, il y a le côté bon, tout le monde est fatigué à un moment ou à un autre, ce qui est absolument normal. Là, on est en train de parler d'un épuisement, quelque chose qui est profond en termes d'intensité et en termes de durée. Donc il faut en parler, il faut mettre ça sur le devant de la scène et petit à petit, les choses changeront.
Mais je ne comprends pas, les médecins, ils ne sont jamais fatigués alors.
C'est aussi ça le problème, c'est que le patient lui-même, il se dit que c'est forcément, il n'a pas besoin d'en parler parce que forcément, dans le cas du cancer, on lui dit, vous avez un cancer, donc les traitements sont très agressifs, forcément il va être fatigué.
Donc c'est normal d'être fatigué.
Même lui, le patient ne le prend pas forcément en compte. Il se dit, c'est normal, donc il l'accepte.
Il y a clairement une forme de fatalité. Oui, de fatalité du monde médical.
Ça semble aller de soi.
Et des patients.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Feel it in the streets on a day like this. Thank you. Feel like. piocher. 101.5 FM.
Un cercle de conditionnement s'installe. On pourrait aussi parler de cercle vicieux. Je suis épuisée, donc je vais moins bien, donc je vais moins bien, donc je vais moins bien, et ainsi de suite. Cette fatigue chronique, pathologique, est un système qui s'auto-entretient. Quel que soit le point de départ, plus vous êtes fatigué, plus vous serez fatigué. Qui plus est, on peut l'imaginer, Martin, pour les personnes atteintes de cancer qui doivent supporter les traitements et éventuellement, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, des phases de dépression. J'allais dire de déprime, mais on parle plutôt de dépression dans ces cas-là.
Dépression et anxiété même, oui.
Donc est-ce qu'on peut sortir concrètement de cette fatigue pathologique quand on est atteint ou atteinte d'un cancer ?
Alors il y a ce qu'on appelle des soins de support qui sont mis en place. Donc c'est les soins qui permettent en quelque sorte de prendre en charge les effets secondaires de la maladie des traitements. Donc comme soins de support, nous on travaille surtout sur l'activité physique adaptée. Donc avec des enseignants en activité physique adaptée qui font faire des exercices physiques aux personnes, hein, un peu tout type. Ça peut être, plutôt de étirement, renforcement musculaire, de la marche nordique. Enfin, il y a beaucoup de modalités. Ensuite, vous avez du soutien psychologique comme soins de support. Il y a également de la relaxation, de la socio-esthétique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de prendre en charge les à côté un peu de la maladie des traitements. Et donc, si on parle purement d'un point de vue physique, vous parliez de ce qu'on appelle le déconditionnement, en fait. Hein. Donc, plus je suis fatigué, moins je peux en faire et du coup, moins je vais en faire. Et moins j'en fais, moins après, avec le déconditionnement, moins je pourrais en faire. Donc, ça, on continue à rester fatigué et on continue à se fatiguer.
Ces dispositifs d'accompagnement, ils vont de soi dans le cadre d'une chimiothérapie, par exemple, ou bien est-ce que c'est selon la volonté de chacun ?
Alors, à chaque fois, je pense que c'est proposé plutôt en routine par les médecins, mais du coup, c'est fait volontairement par les personnes, dans des associations, comme par exemple à la Ligue contre le cancer ou à la maison du patient de la clinique.
Il y a des professionnels. Des centres également qui proposent des soins de support directement au centre hospitalier. Donc c'est des choses qui se mettent en place, qui se développent.
Qui se démocratisent.
Beaucoup actuellement.
Mais oui. C'est sur base du volontariat à chaque fois de la personne. On lui prescrit pas de l'activité physique adaptée, on lui prescrit pas d'aller faire du soutien psychologique directement.
Alors on peut, depuis la loi qui est passée il y a peu de temps, l'activité physique peut être prescrite par un médecin dans le cas des affections longue durée. Donc là on parlait de cancer, mais il y a une liste de pathologies chroniques dans lesquelles en fait l'activité physique, on sait qu'elle a des bienfaits. Donc, elle va permettre de diminuer plein de symptômes, d'améliorer la qualité de vie, dont la fatigue, là, ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, c'est vraiment une approche qui est prometteuse, qui se démocratise sur le terrain et qui intéresse de plus en plus de laboratoires de recherche. Effectivement, il y a une question économique derrière tout ça. Mais malgré tout, je suis persuadé que économiquement, ça serait intéressant d'avoir des personnes qui, globalement, dans leur vie, serait beaucoup plus active. Si on prend l'exemple en France, la sédentarité, si j'ai les bons derniers chiffres en tête, est responsable, la sédentarité seule, nette, responsable de 21 000 décès par an en France. La sédentarité, le fait de ne pas bouger. Donc, et là, on parle de décès, mais il y a tout ce qui va entraîner des pathologies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, avec tout ce que ça va entraîner.
Donc, l'encouragement à l'activité physique, ça fait partie des grandes questions de santé actuellement, effectivement, qui sont encouragées par les instances médicales, mais aussi de santé, mais aussi par le gouvernement.
Simplement, il y a une expertise collective de l'Inserm qui a été produite, qui a été rendue il y a quelques semaines. Et justement, donc c'est dans le cadre de l'activité physique et des pathologies chroniques, qui montre clairement, c'est une revue de 1800 articles de la littérature sur ces dernières années, qui montre que l'activité physique, c'est un médicament. C'est un médicament et ça permet de prendre en charge, de diminuer des symptômes. Si on prend l'exemple de la dépression, d'activité physique adaptée qui est encadrée en groupe, a des effets pour des dépressions qui sont modérées, légères à modérées, ont des effets qui sont similaires à ceux des antidépresseurs. Donc on a des véritables effets. Alors aujourd'hui, toutes les recherches qui sont menées, c'est de considérer l'activité physique comme un médicament, mais qui dit que c'est un médicament, aujourd'hui, on veut savoir quelle posologie, quel type d'exercice, combien, parce qu'il faut en faire ni trop ni trop peu. Et c'est tout ça les recherches qui sont menées actuellement pour pouvoir vraiment administrer l'activité physique comme n'importe quelle gélule.
Et s'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse, s'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans ?
Mais oui, c'est vrai, ça, Martin. Heureusement que vous êtes là.
Bah, on essaye d'aider. Ouais.
Effectivement, c'était
Pierre Desproges, hein, je le précise.
Cette tirade de Pierre Desproges, elle est intéressante parce que aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux. Si on reparle du cancer, qui est une des thématiques qui nous anime beaucoup, on soigne de mieux en mieux. On soigne à peu près deux fois plus de cancers qu'il y a 50 ans. Donc c'est bien, ça veut dire que la recherche biomédicale avance, qu'on arrive à soigner ces maladies. Mais en fait, quand on dit soigner, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, oui, le cancer n'est plus là, mais la maladie a généré tout un lot de symptômes qui vont affecter profondément et durablement la personne. Et ces symptômes-là vont perdurer pendant des mois, des années, voire toute une vie.
La maladie, les traitements même, ont généré des effets secondaires. Tu disais la maladie.
Oui, effectivement, la maladie, les traitements, tout ce que ça engage. Et si on soigne plus de cancers, ça veut dire qu'il y a plus de qu'on appelle survivants. Et ces survivants du cancer, et ben en fait, ils ont plein de problèmes, et notamment la fatigue.
Notamment la fatigue.
Ouais. Voilà. Et le problème, c'est qu'on va dire, bah, vous êtes soigné, vous allez voir votre médecin. Bon, bah, la survie à 5 ans, vous avez survécu pendant 5 ans après votre cancer, il n'y a pas d'évolution de votre maladie, donc on va considérer que vous êtes soigné. Merci, au revoir. Vous n'êtes plus malade pour nous. Et sauf qu'on devient plus malade pour le monde médical, on devient plus malade pour ses proches, on devient plus malade pour son travail, alors qu'on a encore un tas de symptômes qui vient perturber profondément votre vie. Donc votre employeur, il ne comprend pas pourquoi vous avez du mal, vous n'êtes plus aussi efficace qu'avant.
Comme si on venait de se remettre d'une grippe.
C'est ça, mais pendant 50 ans. Mmh. Donc ça génère plein de problèmes sociaux, parce que les personnes ne comprennent plus. Et autant il y a un support social qui est très important généralement pendant la maladie, pendant le faire face à cette épreuve, mais ce soutien, il a tendance à s'arrêter au moment où la maladie est annoncée finie par la médecine. Alors qu'en réalité, on a encore plein de problèmes qui sont associés.
D'où l'importance d'aller vers plus de reconnaissance de la fatigue en tant que symptôme pathologique. La fatigue pathologique, justement, elle ne touche pas que les personnes atteintes de cancer. Globalement, elle fragilise les personnes. De quelle façon exactement? Est-ce qu'on est plus perméable aux maladies, par exemple?
Bon, on parlait tout à l'heure du déconditionnement, ça fait référence à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est fatigué, par exemple, si on reparle de l'exercice, on va avoir tendance à faire moins d'exercice, à avoir une vie qui est plus sédentaire, parce qu'on est fatigué, donc on bouge moins. Quand on bouge moins, on va se déconditionner, et en prenant un style de vie sédentaire, on va augmenter des risques d'autres pathologies. Des pathologies cardiovasculaires, des pathologies comme le diabète, et ces pathologies-là augmentent le risque que vous viviez soit en moins bonne santé, avoir une moins bonne qualité de vie, et va réduire votre espérance de vie. Donc on est effectivement sur un symptôme qui non seulement va perturber votre qualité de vie, mais en plus de ça, va empirer votre situation.
Donc non seulement une pathologie particulière peut entraîner un niveau de fatigue extrême, mais la fatigue, si on la laisse s'installer, quand bien même elle n'est pas reliée à une pathologie particulière, peut nous fragiliser et entraîner éventuellement des maladies.
Clairement, elle fragilise. Et elle est même impliquée dans... alors si on parle de fragilité, si on prend des on va revenir sur le cancer, mais des personnes qui ont un cancer du poumon ou dans le cadre de certaines hémopathies, c'est d'autres projets qu'on mène au sein du laboratoire. On sait que les personnes qui ont la plus faible masse musculaire, donc les personnes qui sont les plus déconditionnées, qui se sentent aussi fatiguées, ont des chances de survie qui sont beaucoup plus faibles. En l'occurrence, quand on a une plus faible masse musculaire, on va moins bien supporter les traitements. Donc, il est possible que les médecins décident de donner des traitements qui sont plus légers, donc qui vont moins permettre de lutter contre la maladie. Et tout ça faisant que nos chances de survie vont diminuer. Donc, effectivement, c'est le côté malfaiteur de cette fatigue.
Le côté un peu pervers.
Oui, qui va aller jusqu'à diminuer vos chances de survie ou en plus de votre qualité de vie.
On a dit tout à l'heure que c'était avant tout un processus naturel, donc on peut en conclure que c'est intimement lié à la survie. On le voit à travers les travaux que vous menez dans le cadre de votre laboratoire, la recherche s'est emparée effectivement de la fatigue en tant que sujet, en tant que réelle thématique à proprement parler. Est-ce que pour autant le corps médical, qu'on a un peu pointé du doigt en début d'émission, lui s'en est emparé?
Alors qu'on a un peu pointé du doigt, on fait des généralités parce qu'on a quand même des expériences, mais qui sont à mon avis aujourd'hui trop limitées, trop locales et liées à des initiatives personnelles. Il n'y a rien d'institutionnalisé. Mais si on prend le troisième plan cancer là, qui se termine cette année, Martin me faisait la réflexion il y a quelques semaines sur
260 pages.
Sur 260 pages, le mot fatigue apparaît
3 fois.
Alors qu'on sait que c'est le symptôme numéro 1 rapporté par les patients.
Est-ce qu'on donne les outils nécessaires aux médecins pour mesurer justement ? Vous, vous pouvez le faire dans le cadre d'un laboratoire de recherche, mais est-ce que les médecins individuellement peuvent le faire ?
Il y a des choses qui sont possibles. J'ai connaissance au moins d'une consultation spécifique fatigue. Il me semble que c'est Marie Curie à Paris, si je ne me trompe pas. Donc une consultation qui est centrée sur cette fatigue-là. Aujourd'hui, on pourrait déjà mettre en place des choses.
On disait des questionnaires
Via des questionnaires, via des échelles, effectivement.
Ce qui existe actuellement.
On peut déterminer en disant, la personne ressent une fatigue, elle a l'air plutôt d'être d'ordre émotionnel, plutôt d'ordre cognitif, plutôt d'ordre physique. Et déjà, avec ce premier bilan, on pourrait très bien diriger en disant, si on a une fatigue physique, peut-être que l'activité physique pourrait être quelque chose de recommandé. Donc on pourrait déjà avoir des billes. Maintenant, il faut que ça s'institutionnalise, que ça se répande dans le milieu médical. Et en plus de cela, là ça fait partie, on rejoint nos objets de recherche, c'est que non seulement on est, je parlais tout à l'heure du projet BioCare, qui est plutôt fondamental, qui vise à créer un modèle, mais ce qui pourrait découler de ce modèle, c'est de créer des outils de mesure pour compléter ce que rapportent les patients. Donc ça c'est très important évidemment, ce que va rapporter le patient, mais de le compléter avec quelques mesures d'ordre de test, d'ordre qui permettent d'avoir d'autres informations, et sur cette base-là, de dire, ok, cette personne-là a l'air d'être fatiguée plutôt pour des raisons liées à des perturbations du sommeil, plutôt pour des raisons de dépression. Et donc, un autre objectif à court-moyen terme, c'est de proposer des outils pour les prises en charge. Et déjà, ce qu'on fait, là je vais laisser la parole à Martin, avec la Ligue contre le cancer, le comité départemental de la Sarthe, on a déjà des applications de ce genre de choses. Je te laisse développer ce que vous faites.
Justement, les tests qu'on fait durent assez longtemps, entre 1h30 et 2h. Donc c'est vrai que pour un médecin, ce serait impossible de les faire passer en routine. Pour essayer d'avoir les tests qu'on fait, c'est pour essayer d'avoir un profil un peu global, donc en prenant en compte un peu tous les types de fatigue dont on a parlé, donc que ce soit cognitive, émotionnelle ou purement physique. Mais c'est vrai qu'à part les questionnaires, les médecins n'ont pas accès à de véritables outils de mesure. Et après, le questionnaire introduit aussi des biais en fonction des représentations des personnes. Il y a des personnes qui... aussi par peur de ne pas avoir des traitements supplémentaires, ne vont pas déclarer de fatigue. Ou pour certaines personnes, elles vont juger leur fatigue modérée, alors qu'en fait, si on mesurait réellement leur fatigue, elles auraient une fatigue assez... C'est en fonction des représentations de la personne, quoi.
C'est subjectif et probablement que c'est un peu honteux.
Aussi, oui, c'est ça.
Et effectivement, on peut rebondir sur l'extrait tout à l'heure du philosophe dans l'émission sur France Culture. Qui parlait du jugement qu'il y avait sur la paresse, et c'est l'une des choses qui est verbalisée vraiment par les patients dans les phases post-cancer, avec justement cette fatigue qui persiste, et où il y a une forme de honte, comme vous venez de le dire, sur le regard que vont porter les gens à leur travail, leur mari, leur famille, sur le fait, en fait, ils croient que je suis paresseux, que je j'ai pas envie d'en faire, avec tous les jugements qu'il peut y avoir autour de la paresse dans notre société. Et c'est un véritable problème, et c'est pour ça qu'il est absolument capital de distinguer ce qu'on appelle fatigue normale, la fatigue dont on parlait tout à l'heure, de l'épuisement chronique. Et même si on a le problème vient du fait qu'on a un seul mot, on a fatigue et fatigue, et c'est pas la même chose. Et c'est important de distinguer les deux, ça n'est pas la même chose, et ça ne doit pas être perçu de la même manière.
Est-ce que vous diriez que c'est devenu un sujet de société puis un sujet de recherche, ou l'inverse ?
C'est un peu concomitant. Bon, enfin, un sujet de société,
c'est un mot con triple.
Tout à l'heure était évoqué dans le même extrait le fait que c'était des thématiques qu'animait déjà Homère dans l'Odyssée. Donc c'est des réflexions autour de la fatigue qui sont extrêmement vieilles.
Après, quand on parle de sujet de société, c'est quand le commun des mortels s'en empare aussi comme sujet de conversation, pas uniquement des médecins ou des philosophes.
Alors, je pense que c'est arrivé par le burn-out, on en a parlé quand même beaucoup ces dernières années. En ce qui concerne la fatigue pathologique d'un point de vue de la santé liée à des pathologies chroniques, j'ai pas l'impression qu'on en entende trop parler.
En ce qui concerne le cancer, c'est quand même peut-être plutôt la recherche qui s'y intéressait avant la société.
Oui, clairement.
D'où la preuve, parce qu'il y a quand même des études les premières études sur la fatigue liée au cancer, c'est les années 90 à peu près, on va dire. 90-2000 peut-être.
La toute première 80, et après...
Si on regarde encore l'exemple du plan cancer, où il n'y a que 3 fois le mot fatigue en 260 pages, c'est qu'on s'y intéresse peut-être pas autant qu'il faudrait.
Et ça va venir, d'où l'importance des travaux qu'on mène, mais que de très nombreux laboratoires et aux chercheurs mènent dans le monde actuellement, pour mieux maîtriser cette chose qu'est la fatigue, pour pouvoir ensuite trouver des solutions et que ça puisse, qu'on puisse la prendre en charge dans notre société plus largement.
Dans nos sociétés, parce qu'il doit y avoir quand même des pays, on discute à travers un prisme très occidental, mais probablement que sur d'autres continents, les réflexions sont différentes.
Les États-Unis, ils sont un petit peu mieux que nous, parce qu'ils ont déjà des recommandations qui sont mises en place justement pour traiter la fatigue, donc par l'activité physique notamment.
Mais on reste dans des considérations très occidentales. Vu l'ensemble des paramètres qui vont impacter la fatigue dont on parlait tout à l'heure, il me semble évident que des notions de culture vont jouer un rôle important également. Malheureusement, aujourd'hui, la recherche scientifique est faite dans le monde occidental. En tout cas, celle auquel on a accès. Donc probablement qu'elle masque d'autres types et d'autres façons de la concevoir qui sont aveugles à notre société.
La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tous les contenus du Labo des Savoirs sont à retrouver sur notre site www.labodessavoirs.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci beaucoup Baptiste Morel-Prieur et Martin Chartogne pour votre éclairage sur ce sujet on ne peut plus contemporain. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.
You make my